Bonjour à tous. Ce matin, on va donc continuer notre parcours dans la première lettre aux Corinthiens. Je le dis pour ceux qui, comme Julien, peut-être n'étaient pas là d'habitude. Nous en sommes au chapitre 10 aujourd'hui. En ce moment, vous avez remarqué que c'est une saison propice pour les chutes. Et vous avez certainement souvenir de chutes mémorables. Pas forcément sur le verglas d'ailleurs ou sur la neige. Est-ce que vous vous rappelez de certaines chutes physiques, on va dire? Vous étiez pourtant sûr de vous, n'est-ce pas, ce jour-là? Moi, je me rappelle d'une chute mémorable que j'ai eue en gare de Mâcon quand j'étais étudiant sur une plaque de givre. J'ai glissé et ma valise est partie d'un côté, la sacoche de l'autre et le bonhomme sur le derrière. Et j'avais tous les passagers qui étaient sur le quai qui me regardaient comme dans mes exploits. Et j'ai jamais oublié cette chute. Et il y en a eu d'autres depuis, malheureusement. Avez-vous remarqué comme ça prête à rire? Et on se retient parfois de rire parce que parfois ça finit mal, les chutes. Donc, on en voit une ici, une personne qui glisse apparemment du verglas, qui se rattrape sur les mains. Donc, ça, c'est pas bon du tout parce que ça peut casser le poignet. Vous connaissez l'histoire du tapis dans lequel on se prend un pied bêtement et il peut y avoir des conséquences graves, surtout chez les personnes âgées. Et puis parfois, c'est plus grave encore et c'est beaucoup moins drôle. Là, on s'arrête de rire. On peut tous tomber un jour ou l'autre, évidemment, physiquement, et se casser un membre, plus grave encore. Je vais monter cette chose-là dans le coin. Tac. Mais aussi spirituellement, on peut tomber, même si on est sûr de nous. Et évidemment, humainement, on aurait un peu tendance à jeter la pierre aux gens qui chutent spirituellement, mais sachant que nous pouvons tous tomber un jour ou l'autre spirituellement. Et c'est ce que nous enseigne 1 Corinthiens chapitre 10 dans son verset 12 où Paul dit que celui qui croit être debout fasse attention de ne pas tomber, sous-entendu spirituellement. Vous vous souvenez que les Corinthiens étaient assez sûrs d'eux, ils étaient sûrs de leur sagesse, de leur spiritualité, de leur liberté, qui leur faisait même faire certaines choses qui n'étaient pas bonnes, qui n'étaient pas édifiantes, qui n'étaient pas utiles. Et nous verrons les versets 1 à 22 ce matin qui représentent plutôt un avertissement, une mise en garde très réaliste dans notre vie chrétienne, même s'il y a des choses magnifiques avec le Seigneur. Nous gardons grande autonomie d'action. Et dans cette autonomie, Dieu nous accompagne et ce matin, il va nous aider à justement éviter toute chute. Alors, on a déjà évoqué les versets 23 à 33 dans les chapitres précédents, donc je ne vais pas y revenir. Les chutes, c'est souvent chez les autres, n'est-ce pas? Ça, c'est comme les maladies, ça arrive toujours aux autres, jusqu'au jour où ça nous arrive à nous. Les Israélites sont tombés spirituellement dans leur course avec Dieu dans l'Ancien Testament. Et pourtant, ils étaient autant aimés de Dieu que nous. On a parlé d'amour ce matin. Ils étaient autant aimés de Dieu que nous. Ils ont été disqualifiés dans cette course. Et même Moïse n'a pas pu entrer dans la terre promise. Il l'a salué de loin seulement. C'est vraiment dommage pour eux, n'est-ce pas? Mais nous sommes sous la grâce, me direz-vous. Cela ne peut pas nous arriver. En êtes-vous bien sûr? Dans ce chapitre 10 de 1 Corinthiens, au verset 6, Paul nous dit « Or ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. » Et le verset 11 insiste en disant « Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple » et ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Alors, pour la petite histoire, pour vous qui aimez le grec, le mot « exemple » est traduit en grec par le mot typos, qui veut dire en fait un patron en termes de couture. Quand vous faites un vêtement, vous vous référez toujours à un patron. Vous ne faites pas ça comme ça à la légère en général, surtout si vous voulez faire une série de vêtements à peu près identiques. Et l'idée, c'est aussi un moule auquel on se réfère pour faire un gâteau qui a une forme qui tient à peu près la route, on va dire. Donc, tout ça, c'est arrivé, ces choses qui sont arrivées aux Israélites, c'est pour nous servir d'exemple à nous, pour notre instruction. Alors, n'avez-vous pas le sentiment parfois que le monde ne tire guère les leçons de l'histoire? Moi, c'est quelque chose que je constate assez souvent depuis un certain nombre de mois. Et que même les erreurs se renouvellent de génération, génération après génération. On oublie les exemples du passé. On va oublier la Shoah. On va oublier toutes les erreurs du passé au niveau de la gouvernance d'un pays, etc., etc. Ou même dans les problèmes de maladie, etc. Avons-nous pour habitude de tenir compte de l'exemple des Israélites? Je suis pas sûr. Pour nous, c'est peut-être que de l'histoire ancienne. Faisons-nous une grande différence entre Ancien Testament et Nouveau Testament en disant, quand je lis l'histoire des Israélites, ça, c'était avant, n'est-ce pas? En fait, on pourrait dire aussi, mais Christ est passé par là entre-temps. Les choses sont différentes et vous auriez raison. Oui, le pardon est acquis à la croix, par la confiance en Christ Jésus. Pourtant, cela ne doit pas être une occasion de relâchement spirituel et moral. La grâce ne nous offre pas la facilité ou le relâchement spirituel ou moral. Dans l'Ancien Testament aussi, Dieu savait pardonner à son peuple, acceptant le système, entre guillemets, provisoire des sacrifices, dans l'attente du sacrifice suprême en Jésus. Dieu n'a pas changé et ses exigences restent les mêmes aujourd'hui. Parfois, on imagine un petit peu, plus ou moins consciemment, que la grâce a fait que Dieu est devenu beaucoup plus cool, beaucoup plus tolérant. Pas du tout. Dieu n'a pas changé. Dieu ne change pas. Jésus-Christ lui-même, il est dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ça, c'est une chose qu'il est important de se rappeler ce matin. Alors, quel est notre avantage, nous, qui sommes sous la nouvelle alliance? Elle n'est pas moindre, puisque Dieu a fait de nous, si nous sommes confiants en Jésus, croyants en Jésus, le Christ, nous sommes des êtres, nous sommes de nouvelles créatures, par la vertu de l'Esprit de Dieu, par la présence de l'Esprit de Dieu, par la nouvelle naissance en l'Esprit de Dieu. Mais c'est aussi une excuse de moins de ne pas pouvoir plaire au Seigneur. Nous avons tout pleinement en Christ. Notre nouvelle proximité de Dieu en Jésus ne doit pas nous faire oublier que nous restons des créatures soumises au Créateur. Certes, des enfants de Dieu qui aiment et qui respectent un Père et un Sauveur, mais ce Père et ce Sauveur ne sont pas des potes cool, n'est-ce pas? Nous ne traitons pas avec lui d'égal à égal, même si sa porte reste ouverte. On pourrait entrer dans une espèce de familiarité telle que nous oublions qui est Dieu dans l'histoire. Et cette semaine, je regardais un téléfilm sur l'histoire de Voltaire. Et Voltaire avait un père qui était notaire. Et c'était incroyable de voir ce respect qu'il avait pour son père, même s'il n'était pas d'accord avec lui, même s'il s'est un peu révolté des moments, il le vouvoyait. Et fut un temps, je ne sais pas si vous qui êtes jeune, vous avez sûrement pas connu ça, mais Joël, entre autres, et moi-même et d'autres de notre âge, avons connu le temps où nous vouvoyons notre Père céleste. Quand on priait notre Père, on disait notre Père qui aides aux cieux. Là, aujourd'hui, on dirait plutôt mon Père qui est aux cieux. C'est pourquoi Dieu nous avertit à travers ces exemples de l'Ancien Testament pour nous dire en quelque sorte, attention les gars, Je vous ai donné ma grâce, je vous donne mon amour parfait, comme on l'a vu ce matin, mais je suis le même. Mais je ne laisserai pas ma gloire à un autre et je ne laisserai pas transgresser mes principes dans mon Église et dans mon peuple. Dieu avait un plan bienveillant pour Israël. Dieu n'a pas mis Israël dans le désert pour lui faire du mal. Et dans ce chapitre 10 de 1 Corinthiens au verset 1, Paul introduit ce chapitre en disant « Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé à travers la mer. » En fait, ils ont tous bénéficié de la protection et de la direction de la colonne de nuée le jour. Et vous savez qu'il y avait aussi la colonne de feu la nuit. C'était quand même très, très commode quand on voulait marcher un certain temps pendant la nuit. Et même elle s'est mise entre les Égyptiens, cette colonne, et Israël pour masquer un petit peu les choses. Et puis, ces Israélites ont tous franchi victorieusement la mer Rouge avec les Égyptiens à leurs trousses. Alors, Jésus ne nous a-t-il pas dit qu'il serait avec nous tous les jours, un petit peu comme cette nuée qui nous accompagne, qui nous éclaire, qui nous dirige, et cet Esprit Saint qui a promis de nous conduire dans toute la vérité. Au verset 2, Paul dit « Ils ont tous été baptisés en Moïse », c'est assez curieux comme expression, mais dans la nuée et dans la mer, ils ont été immergés à travers Moïse dans cette communion avec Dieu, sa présence dans la nuée. Ils ont été sauvés de la mort certaine à travers cette mer ouverte qui allait, pour le coup, immerger leur poursuivant. Et nous, chrétiens, ça nous parle parce qu'on sait que le symbole du baptême d'eau, c'est le symbole de la nouvelle naissance, c'est le symbole du passage de la mort à la vie. Et eux, ils sont vraiment passés de l'esclavage à la liberté, de cette mort certaine à la vie à travers la mer, comme une sorte de baptême. Au verset 3, ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle, cette manne céleste symbolisant le pain de vie, la parole de Dieu, le pain du ciel. Et Jésus reprendra cette expression, « Je suis le pain du ciel ». Verset 4, ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher était Christ. Alors, on voit au début et à la fin de leur périple ce rocher qui étanche leur soif et celle de leur troupeau. Peut-être qu'il y a d'autres événements qui n'ont pas été racontés, mais ce peuple avait besoin d'eau, il avait besoin de boire. Alors, que de bénédictions, n'est-ce pas, envers ce peuple en Israël, malgré les difficultés du désert, malgré le mauvais souvenir de l'Égypte, malgré l'appréhension de la terre promise, de la conquête de Canaan, Dieu a assuré sa protection, sa direction. Ils étaient en communion avec lui, ils avaient le salut déjà en quelque sorte, au moins à travers cette délivrance de l'esclavage d'Égypte, et ils avaient la nourriture et la boisson. Que de bénédictions, n'est-ce pas? Dieu a aussi un plan bienveillant pour les Corinthiens et pour nous. On pourrait dire que c'est une sorte de protection aussi, de direction qu'il nous donne au verset 13, quand il dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Il n'a pas dit qu'il enlèverait la tentation. Il pourrait enlever toutes les tentations qui sont les nôtres, mais non, il n'a pas dit ça. Il préparera le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alors, un petit rappel au sujet de la tentation, c'est l'apôtre Jacques qui nous le dit dans sa lettre au chapitre 1, versets 13 à 15, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis, le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. On a aussi l'idée, évidemment, de communion, qui fait partie aussi de nos bénédictions. On a le salut, on a la nourriture et la boisson. Au verset 16 et 17 de 1 Corinthiens 10, Paul dit, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Ça nous fait penser aussi quand Jésus dit, un petit peu pour provoquer les Juifs de l'époque, si vous ne mangez pas mon corps et si vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous-même. Évidemment, c'était une allégorie, mais il parle aussi à la Samaritaine de cette autre allégorie de l'eau vive qui représente évidemment cette vie de l'esprit que Jésus peut donner si on lui fait confiance. Et cette coupe de bénédiction dont parle Paul ici, elle fait référence à cette troisième coupe qui s'appelait la coupe de reconnaissance, qui était la troisième coupe sur quatre coupes qui étaient partagées au cours du repas pascal parmi les Israélites. Intéressant. Mais il y a un mais dans ce texte pour les Israélites du désert. Malgré toutes ces bénédictions et ce plan bienveillant, et je dirais cette grâce pour vous qui étiez là à l'étude biblique sur la grâce de Dieu dans l'Ancien Testament, on a vu des centaines de versets qui ont parlé de la grâce de Dieu. Eh bien, malgré aussi la pratique de la troisième coupe de reconnaissance, on peut très bien être reconnaissant le dimanche matin, on peut très bien être reconnaissant quand on prend la Sainte Cène, mais malgré tout ça, au verset 5, il nous dit, mais la plupart d'entre eux n'ont pas été approuvés par Dieu puisqu'ils sont morts dans le désert. Ils ont été disqualifiés dans la course, ils ont été désapprouvés, et même Moïse le fut malgré sa patience légendaire. Certes, les authentiques croyants n'ont pas perdu le salut pour autant, mais leur vie a été abrégée pour les uns, et pour les autres, comme Moïse, ils ne participeront pas à la conquête de la terre promise. Le voyage, l'aventure s'arrête ici. C'est une grande tristesse dans l'histoire du peuple de Dieu. Tout s'arrête ici, tout le monde descend. Vous imaginez faire un beau voyage, enfin un beau voyage, un voyage, et à un moment donné, on vous dit non, ça suffit maintenant. Vous avez été trop pénible dans l'autocar. On arrête l'autocar, vous descendez et vous débrouillez maintenant. Alors, que s'est-il passé pour en arriver là? Paul nous rappelle quatre événements marquants. D'abord, le peuple d'Israël a été idolâtre. On verra pourquoi. Ils sont tombés dans l'immoralité sexuelle. Deuxième événement marquant. Troisième événement, ils ont provoqué le Seigneur. Quatrième événement, ils ont murmuré contre Dieu et Moïse, qu'on pourrait appeler leur pasteur. Alors, Dieu ne veut pas que nous tombions dans ces pièges. Dieu ne veut pas que nous ayons de mauvais désirs comme ils en ont eu, comme le dit le verset 6, et c'est là toute sa bienveillance. Dieu veut nous éviter tout ça. Alors regardons d'un peu plus près ces problèmes. Ils furent idolâtres. Au verset 7 d'1 Corinthiens 10, Paul dit, ne devenez pas idolâtres. Pas que vous l'êtes, mais ça peut devenir un risque malgré tout. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux. En effet, il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Vous connaissez le fameux épisode du veau d'or en Exode 32. Le peuple s'impatiente. Mais que fait donc Moïse sur cette montagne? Ça nous fait penser à Saül avec Samuel, qui se faisait un petit peu attendre, et Saül qui a pris des décisions qui ne lui incombaient pas. Et vous connaissez la suite, ça a rompu sa confiance avec Dieu. Le peuple s'assemble autour d'Aaron, une sorte de démocratie tout à coup qui entre en jeu là, une sorte d'assemblée générale. Et alors le peuple dit à Aaron, allons, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Au lieu de marcher par la foi, ils marchent par la vue, par les sens, par les émotions, par les désirs humains. Il leur faut un Dieu visible, tangible, une statue comme dans le culte égyptien, une religion, une institution. Alors, ils ont été habitués à la nuée, bien sûr. Ils ont vu cette représentation de la présence de Dieu, de l'action de Dieu. Mais était-ce une raison pour pécher de la sorte? Il y a un verset que j'ai découvert il y a quelques mois dans Ésaïe, au verset, chapitre 8, verset 17, j'ai beaucoup aimé, qui dit: Je compte sur l'Éternel, même s'il se cache. Même si je ne sais pas ce qu'il fait en ce moment, même si je trouve que il a pas l'air de faire grand-chose pour moi, même si c'est le silence, même si la parole de Dieu ne me dit plus rien, même si j'ai du mal à prier. Je compte sur l'Éternel, même s'il se cache. Et puis, on a Aaron, qui était un leader, alors particulièrement faible, et soumis au peuple. Et je me demande même comment il a été délégué pour aller voir Pharaon. Sans doute avait-il la parole facile, mais j'ai pas l'impression qu'il était très courageux. Il était prêt à faire n'importe quoi. Il décide de faire un dieu avec les moyens humains, donc les bijoux des gens, on pourrait dire leurs offrandes, et avec ça, il fait quelque chose en quoi il va mettre en quoi ils vont mettre leur confiance. Et le pire, c'est qu'ils dirent alors à cette statue, à ce veau d'or, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Vous imaginez ce que Dieu, qui voyait tout, hein, du haut de la montagne, il voyait tout, en tant que Dieu qui sait tout, le sentiment que Dieu pouvait avoir de ses enfants qu'il avait sauvés, de ses enfants qu'il avait tirés de l'esclavage, qu'il avait mi miraculeusement fait traverser la mer, dire à cette statue, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Alors non seulement ils deviennent tout à coup polythéistes, mais en plus ils insultent celui qui les a sauvés des Égyptiens en attribuant le mérite à un objet inerte, à une invention humaine, à une œuvre humaine. Le pire du pire, c'est que le lendemain, il programme une fête, tenez-vous bien, en l'honneur de l'Éternel avec des sacrifices. Non mais, on croit vraiment rêver là. Alors qu'ils viennent de le déshonorer. Et en fait, cette fête n'a rien pour l'Éternel puisque on sait que ces reproductions de fêtes païennes étaient souvent des danses orgiaques. Et c'était vraiment une religiosité païenne. On s'amusait, on buvait, on mangeait. C'était la grande fête païenne. Alors, grattez un peu les vernis religieux et vous ne tarderez pas à découvrir la réalité spirituelle. On peut sauver la face en disant on va faire une fête en l'honneur de l'Éternel, mais derrière, on sait très bien que le cœur n'y est pas et on sait très bien que ça ne correspond pas du tout à ce que Dieu attend de son peuple. Alors, au-delà du veau d'or lui-même, c'est l'attitude du cœur qui est grave. À qui faisons-nous confiance, nous autres? Est-ce que nous faisons confiance au visible, au terrestre, à l'humain, aux moyens, aux pratiques religieuses, peut-être au livret A ou au cabinet d'assurance? Le concept de l'idolâtrie est beaucoup plus subtil qu'un simple objet, qu'une simple statue. C'est tout ce qui se cache derrière, c'est tout ce qu'il y a comme lien entre l'objet lui-même et le cœur qui l'a fabriqué ou qui le vénère. Deuxième problème, ils sont tombés dans l'immoralité sexuelle. Verset 8, ne nous livrons pas non plus à l'immoralité sexuelle comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte que 23 000 sont tombés en un seul jour. Nombre 25, 1 à 9, ça se passe dans les plaines de Moab. Et la parole de Dieu nous dit, Israël était installé à Sittim, et le peuple commença alors à se livrer à la débauche avec les femmes moabites. C'est intéressant le mot, il s'était installé, parce que dès qu'on s'installe dans la vie, on commence à s'ennuyer, et on commence à divaguer un petit peu à droite, à gauche. Donc, attention à l'oisiveté. Et à l'installation un peu trop stable, des unions contre nature avec ces femmes et de plus avec des non-croyants. Ces femmes invitèrent le peuple au sacrifice en jouant de leur charme, forcément, en l'honneur de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Ils ne se contentent pas de manger comme les Corinthiens, les chrétiens de Corinthe, quand ils allaient des fois dans certains temples d'idoles. Mais là, ils se prosternent carrément devant leur Dieu. Alors, On invite, ça va tout doucement, c'est sympa, et puis on finit par communier. Et ça, c'est à chaque fois la même chose. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a vu dans le chapitre 7 que le Seigneur, en ce qui concerne le mariage, encourage fortement à épouser un croyant ou une croyante plutôt que de se mettre sous un joug étranger qui a ce danger d'attirer vers d'autres dieux, d'autres consécrations. Et puis il est dit qu'Israël s'attacha au dieu Baal-Péor carrément. Il s'attache et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Alors ça m'a posé question, je me suis dit, mais à qui sommes-nous le plus attachés? Peut-être que c'est bon de se poser la question. En Matthieu 10, 37, Jésus nous dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. C'est très fort comme parole, évidemment. Notre père, notre mère ont une place. La meilleure preuve, c'est qu'il nous est dit de les honorer. Nos enfants, bien sûr, ont une place très importante, mais ils n'ont pas normalement la première place. Jésus a-t-il la première place vraiment dans ma vie, dans notre vie? Alors, peut-être à certains moments, peut-être pas à d'autres, mais c'est toujours une bonne question à se poser. La débauche conduit inévitablement à l'idolâtrie. Souvent, les deux phénomènes sont liés. Il n'y a plus aucune crainte respectueuse de l'Éternel. Les sens prennent le dessus et l'infidélité envers Dieu est consommée. On ne peut pas séparer le corps et l'esprit. C'est ce qu'on a vu déjà dans les autres chapitres de cette lettre aux Corinthiens. C'est que si je donne mon corps à une prostituée, comme c'est l'exemple qui a été donné, je ne peux pas, dans l'esprit, être en communion avec Dieu. Ce n'est pas possible. Le corps et l'esprit marchent ensemble. Troisième problème, ils ont provoqué le Seigneur. Alors, verset 9 de 1 Corinthiens 10 nous dit, enfin, Paul nous dit, ne provoquons pas Christ, comme certains d'entre eux l'ont fait, si bien qu'ils sont morts, victimes des serpents. Effectivement, c'est l'épisode des serpents brûlants en Nombre 21, versets 4 à 6. Vous pourrez le relire après. Le peuple s'impatiente à nouveau. Il parle contre Dieu et contre Moïse, et on assiste à toutes sortes de jérémiades au lieu de reconnaissance. Alors, vous voyez, peut-être que quand il fêtait la Pâque, il prenait la troisième coupe de reconnaissance. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Et puis tout d'un coup, ils se mettent à se plaindre, à se plaindre. Alors, pourquoi avoir quitté l'Égypte pour venir mourir dans ce désert? Il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'eau. Vous vous souvenez qu'ils regrettaient même les oignons. La bonne odeur des oignons. Il y en a marre de cette manne, de cette misérable nourriture. Alors, cela peut nous faire sourire, bien sûr. Oh, ils exagèrent quand même. Mais qu'aurions-nous fait à leur place? Nous qui avons une telle variété d'aliments, de fruits et de légumes, ils ont déjà oublié l'esclavage, ils ont oublié que s'il y a des morts, c'est de leur faute à eux, c'est pas la faute de quiconque d'autre. Le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est le jugement de Dieu là qui s'applique. Et on a une preuve mathématique que le salaire du péché, c'est la mort, c'est que on peut faire un bilan numérique du nombre de morts. Dans l'épisode d'idolâtrie, il y a eu quand même 3 000 victimes. Au niveau de la débauche, il y a eu quand même 24 000 morts en un seul jour. Au niveau de la provocation, il est dit dans le texte que beaucoup moururent. Et puis au niveau des murmures que l'on va voir maintenant, qui est le quatrième problème, il y en a 250 plus 14 700 victimes. Donc, c'est quand même pas rien. Et effectivement, ils ont murmuré contre Dieu et Moïse. Verset 10, ne murmurez pas comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte qu'ils sont morts sous les coups du destructeur, l'ange ou l'ange exterminateur. Alors, murmurer, on pourrait dire, c'est peut-être des plaintes. Effectivement, il y avait toujours des plaintes, ils n'étaient pas contents. Mais l'épisode, c'est plutôt l'épisode de la révolte de Corée et des brûle-parfums qui est mis en évidence ici. Et en fait, c'est un coup d'État, carrément, de ce fameux personnage qu'on appelle Corée, avec 250 Israélites contre Moïse et Aaron. Alors, il leur dit, mais pourquoi, il dit à Moïse et Aaron, pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? C'est un peu comme si on disait, pourquoi auriez-vous autorité sur ce peuple? C'est quand même la démocratie, non? En effet, dit l'Écriture, tous les membres de l'Assemblée sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Bon, c'est un bon argument. Donc, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'anciens, il n'y a pas besoin de pasteurs, il n'y a pas besoin de responsables spirituels. En fait, quand on creuse un petit peu la question, on voit que ces gens de Corée étaient des descendants de Lévi, qui en fait contestaient la prêtrise d'Aaron avec ses privilèges. Donc, ce qui se cache sous le vernis, ici, c'est la jalousie, tout simplement. Parce que les Lévites, eux, ils devaient gérer le sanctuaire. Ils n'avaient pas la prêtrise. Alors, est-ce qu'ils estimaient que c'était une tâche subalterne? Et ils enviaient un petit peu le ministère du prêtre Aaron et de ses privilèges. C'est un peu comme si un diacre responsable du lieu de culte était jaloux du pasteur. Ça n'a aucun sens parce que son ministère est tout aussi utile pour l'œuvre de Dieu. Et puis, il y a un autre groupe qui revendique une place, entre guillemets, dans le gouvernement de la nation en tant que chef de la tribu de Ruben. Quand même, c'était un petit peu les aristocrates, c'était quand même des gens qui avaient un certain statut. Ils revendiquaient une place. On pourrait assimiler ça à une espèce d'ambition politique. Donc, c'est ça qui constitue ce murmure de cette révolte de Corée. Et puis, on voit que ces gens, ils refusent d'obéir à Moïse quand il les convoque. On voit une attitude rebelle du cœur. Et puis ensuite, le peuple tout entier reproche à Moïse d'avoir fait mourir les gens. Encore une fois, allez, c'est les responsables qui prennent tout. Ils ont le dos large. Allons-y. Mais en fait, non, c'est l'Éternel qui tranche la question en sanctionnant les opposants. Et on voit la terre qui s'ouvre pour engloutir Corée et les personnes qui étaient avec lui. Et puis, il y a un autre fléau qui n'est pas décrit. C'est pour ça que Paul appelle ça le fléau du destructeur ou de l'ange exterminateur. Et c'est effectivement à travers l'offrande du parfum que le fléau va s'arrêter à un certain moment. Mais il y aura 14 700 victimes quand même. Alors, résumons nos quatre dangers dans lesquels Dieu veut pas que nous tombions. C'est l'idolâtrie qui est au lieu de la marche par la foi et l'adoration. C'est l'immoralité sexuelle au lieu du respect du plan de Dieu pour la famille, pour le couple. C'est les plaintes au lieu de la reconnaissance et du contentement. Et c'est l'esprit d'opposition au lieu de la collaboration. Je suis extrêmement frappé par nos démocraties occidentales. Vous savez qu'elles sont en grande difficulté depuis pas mal de temps. Et je suis vraiment affligé de voir cet esprit d'opposition systématique qui va commencer à naître là en France en vue des élections de 2022. On a vu ce qui s'est passé aux États-Unis et c'est triste de voir un peuple se diviser. Et en France, on est capable des mêmes choses. Et cet esprit d'opposition, au lieu d'avoir un esprit de collaboration, de faire ce que Dieu nous appelle à faire ensemble, et même si on n'a pas les mêmes idées, au moins on apporte une pierre à l'édifice et on construit. Et Dieu ne veut pas que nous ayons ces mauvais désirs comme ils en ont eu. Et malheureusement, ça arrive, ce genre de choses, dans les églises. Alors même si nous ne vivons pas forcément ces choses, sachons qu'il y a eu dans le passé, parfois des situations qui y ressemblaient étrangement. Alors, Dieu nous apprend dans ce chapitre 10 qu'il nous incombe de gérer les tentations. Au verset 13 1 Corinthiens 10, Paul dit: aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. La tentation, nous dit Paul, est purement humaine. Ce n'est pas Dieu qui nous tente, on l'a vu à travers Jacques, même que ce soit de l'idolâtrie, de l'immoralité sexuelle, de la provocation de Dieu, des plaintes, des murmures motivés par la jalousie. Certains seraient tentés de dire, c'est le diable qui me tente, c'est trop facile. Dieu ne permettra pas que la tentation aille au-delà de nos forces humaines. Je l'ai pas mis ici, mais réfléchissez un jour à ce qu'a vécu Jésus dans le désert. Il a été tenté dans le désert. Et le livre aux Hébreux nous dit que Jésus a été tenté en toutes choses. C'est pour ça qu'il est capable d'avoir compassion de nous et de venir à notre secours quand nous sommes tentés. Et je me suis dit, mais si Jésus a été tenté en toutes choses, mais il a dû être tenté avec les choses les plus horribles qu'un être humain puisse être tenté. Et vous pouvez mettre des mots précis sur ces tentations et vous dire que telle tentation par laquelle vous passez, Jésus est passé par là. Il préparera le moyen d'en sortir, à condition que nous résistions au tentateur. Dans la plupart des cas, il y a deux cas dans ces situations où il nous dira plutôt de fuir. Mais dans un autre passage, il nous dit de résister au diable et qu'il fuira loin de nous. C'est nous qui avons les leviers. Ce n'est pas automatique. Nous n'avons pas à mettre la faute sur le diable et nous n'avons pas à mettre la faute sur Dieu quand nous sommes tentés. Il en dépend évidemment de notre communion avec Dieu, de nos centres d'intérêt, de notre vie de prière, de saines occupations, de la méditation de la parole de Dieu, de l'amour et de la reconnaissance que nous développons envers notre Dieu, des psaumes, des hymnes et des cantiques dont nous nous entretenons au quotidien et bien sûr de notre vigilance. Rappelons-nous ce que Jésus dit en Matthieu 26, verset 41, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. 1 Corinthiens 10, 14 nous dit, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Pourquoi est-ce que nous devons fuir et ne pas résister? Alors, Paul nous avait déjà dit de fuir l'immoralité sexuelle, ce qui est notre deuxième situation ici. Ça, on l'avait vu dans le chapitre 6, verset 18. Parce que notre corps appartient à Jésus. Voilà pourquoi nous devons fuir l'immoralité sexuelle et n'imaginons pas être assez forts en nous-mêmes pour lutter. Il vaut mieux échapper, un peu comme Joseph quand il a été harcelé sexuellement par la femme de Potiphar. Il en a laissé sa veste, mais c'était un moindre mal. Il a fui carrément. Il a fui la situation. Pourquoi une vigilance particulière face à l'idolâtrie. Certes, nous avons vu que l'idolâtrie est subtile. Elle ne cible pas un objet, mais concerne l'attitude de notre cœur par rapport à l'objet. Prenons l'exemple de l'argent au hasard. L'argent n'est pas un problème en soi. Si on a une bonne situation, on mérite notre salaire, l'ouvrier mérite son salaire, pas de problème. Mais l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, nous dit la Bible. Et la Bible l'assimile à de l'idolâtrie. En Colossiens 3:5. Et Paul à Timothée, dans la première lettre à Timothée au chapitre 6, au verset 9 à 10, il nous lance aussi un avertissement très précieux. Il dit, quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux, et si, en s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Jésus dira en Matthieu 6, 24, personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent, mammon. Mammon qui est une représentation de l'argent. Et c'est le problème fondamental de toutes nos sociétés modernes dans lesquelles nous sommes malheureusement immergés ici ou là. C'est le trafic de drogue, c'est le travail au noir, au dissimulé, c'est les pots de vin, c'est les rétrocommissions, c'est le jeu de hasard, c'est les rançons, c'est la fausse monnaie, et même le foot est pourri par l'amour du fric. C'est horrible de penser que quelque chose qui pourrait être très honorable, soit à ce point corrompu par l'amour de l'argent. Mais il y a plus dans notre texte. C'est un danger spirituel, et je dirais même occulte, qui justifie de fuir l'idolâtrie. Et ça, il s'adresse aux Corinthiens. Rappelons-nous, ils sentaient en Christ la liberté d'aller dans les temples d'idoles, où c'était une sorte de salle polyvalente, je rappelle, où on offrait des sacrifices, puis après on faisait un bon repas avec ces mêmes viandes, etc. Donc, il nous a expliqué tout ça. Et en 1 Corinthiens 10, versets 20 à 22, il dit, mais ce que les non-juifs, les païens, sacrifient aux idoles, ils le sacrifient à des démons. Vous voyez, l'idole elle-même, c'est pas ça l'important, c'est ce qui se cache derrière. Et évidemment, c'est le lien qu'on a avec ce qui se cache derrière. Alors, il le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Ou bien voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Les Corinthiens s'estimaient libres en Christ d'aller dans ces temples d'idoles, de participer aux cérémonies et même de manger ces viandes offertes. On nous dit que la viande n'est rien, pas plus que l'idole muette n'est quelque chose. Mais en mangeant ces viandes offertes en sacrifice à l'idole, ils entrent en communion, sans le vouloir, sans le savoir, avec des démons. Et comme les Israélites qui mangent des viandes offertes à Dieu, sont en communion avec l'autel. Il nous dit ça donc au verset 18. Alors, ça pose certaines questions. Moi, je veux pas choquer quiconque, mais que penser de ces repas eucharistiques assimilés à des sacrifices et pratiqués dans des édifices religieux consacrés à Notre-Dame ou à des saints patrons dont on vénère les images? Je veux choquer personne, mais à chacun d'y réfléchir. Après, que penser de ces petits porte-bonheur ou ces gris-gris censés nous protéger? J'espère qu'aucun de vous n'a ça sur lui, mais c'est subtil, c'est subtil, c'est absolument subtil. Et même la Bible ou la croix ne sont-elles pas parfois élevées elles-mêmes au rang de choses vénérées? Alors, vous allez me dire, oh, j'exagère, peut-être, mais mieux vaut prévenir que guérir. C'est vraiment très subtil et très sournois. Et même Monsieur Trump, ça m'a surpris ce geste quand il osait brandir une Bible. Alors qu'ils n'en respectaient pas les principes. C'est choquant de montrer ce symbole, de le mettre en exergue. Alors, il est bon de rappeler ce que Dieu a dit dans Exode 20, versets 2 à 5. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas, car moi, Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Ça me rappelle une anecdote. On avait fait une exposition avec la Bible de Gutenberg, avec la presse de Gutenberg, qu'un frère avait prêté pour l'occasion, et il montrait comment imprimer des Bibles à l'époque de Gutenberg. Et on avait reçu un couple qui, on avait fait une soirée après cette soirée-là, après cette semaine d'évangélisation, et on voilà que l'on reçoit un couple charmant qui venait de Mazille, je crois, et un couple d'origine catholique. Et puis ils avaient leur Bible, ils aimaient la Bible, c'était formidable. Et j'étais vraiment heureux, moi qui suis un ancien catholique, franchement, j'étais heureux comme tout de les avoir. Et puis, je commence à parler avec eux, et dans la conversation, ils commencent à m'expliquer qu'ils ont des réunions avec le prêtre du village, et que ils se mettent autour de la table, ils mettent la Madone sur la table, et ils commencent à prier. Et là, j'étais, waouh, j'étais terrifié, j'ai dit, qu'est-ce que je dois dire? Bon, je me souviens même plus ce que je leur ai dit, mais j'ai vu que là, il y avait vraiment un réel problème spirituel, et il s'était mis en fait sans peut-être le vouloir, mais ils étaient liés par un lien occulte à ce moment-là en pratiquant cette chose. Bon, je n'en sais pas plus maintenant, malheureusement, mais c'est ce qui s'est passé concrètement et qui doit nous alerter quand même un petit peu, ne pas nous laisser tomber dans n'importe quelle séduction. Même si on parle parfois des mêmes choses, qu'on fasse attention. Alors, puisqu'on cite les 10 commandements, quelques mots sur Exode chapitre 20, par exemple, qui rejoignent un petit peu notre thème du jour. Le verset 7, tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère, comme les Israélites dans le désert, qui appellent une fête païenne, une fête en l'honneur de l'Éternel, ou qui disent, voici tes dieux. Alors, évitons de mettre Dieu à toutes les sauces, respectons son nom et sanctifions son nom. Verset 14, tu ne commettras pas d'adultère comme ces Israélites avec les filles de Moab. Verset 17, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne, sa maison, sa voiture, son statut social. Contre l'insatisfaction, la jalousie et la soif de posséder toujours plus, on est tellement influencé par notre siècle. Christ a accompli parfaitement la loi de Dieu et en lui, nous avons la capacité d'accomplir la volonté de Dieu, dont les principes spirituels n'ont pas changé. Alors, en conclusion, vous voyez cet homme sur le verglas, que celui qui croit être debout fasse attention de ne pas tomber. Soyons vigilants, comme sur une plaque de verglas. Et un verset en Jude 24, 25, pour terminer, à celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, oui, à Dieu seul sage, qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur, appartiennent gloire, majesté, force et puissance avant tous les temps, maintenant et pour l'éternité. Amen. Nous allons prier parce que j'étais un petit peu long ce matin. Excusez-moi, mais j'espère que vous en avez retiré quand même de bonnes choses de ce que Dieu nous avertit. Seigneur, on veut s'incliner devant toi et on veut se prosterner devant toi, Seigneur, parce que tu es le seul Dieu. Tu es le seul qui mérite l'adoration. Et ce matin, en tant qu'Église, nous voulons fléchir le genou devant toi et courber la tête devant toi et te bénir. Te bénir pour toutes tes bénédictions. Nous l'avons fait tout à l'heure par petits groupes. Merci, Seigneur, pour ta parole aussi, qui nous garde dans toute la vérité et dans toute la justice de ce que tu veux pour ton Église, ce que tu veux pour nous en tant que personne. Et dans ces temps de confinement où on est seul, où on est moins souvent ensemble et en tout cas pas physiquement ensemble, c'est vrai que nous avons vraiment besoin particulièrement que tu nous gardes de toute chute et que tu nous rendes vigilants par rapport à tous les dangers que tu as signalés dans cette parole, ces exemples de l'Ancien Testament qui ont été écrits pour nous, qui nous ont été laissés pour notre instruction. C'est dans le nom de Jésus que nous nous remettons entre tes mains et pour la gloire de ton nom. Amen.